Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, en compagnie de Stéphane Marin à la technique. On peut écouter l'émission en direct, bien sûr, également sur le site www.radiofmplus.org et retrouver les émissions sur les podcasts. Je reçois aujourd'hui Serge Colomba, qui nous parlera de poésie sonore et lira des poèmes extraits de « Reprends ton souffle », une parution 2022. Bonjour Serge Colomba.
Bonjour Marie-Agnès.
Vous dites dans votre biographie, en fait, c'est une analyse écrite par Éléonore Bach. L'hésitation et la posture poétique de Serge Colomba. Écrire devient un geste vocal, un peu comme le bégaiement. Voir, c'est observer ce qui ne se voit dans notre fort intérieur. Percevoir, c'est notre relation à l'intime. Ce qui pourrait ressembler à un défaut du parler est un outil de précision. Serge Colomba s'en sert pour enrichir le langage. C'est cette très belle activation de communication non verbale déplace l'intérêt du travail poétique dans le processus plutôt que dans le résultat, dans le dire plutôt que dans le dit. Donc Serge Colomba, j'avais fait connaissance avec votre écriture, car vous avez été sélectionné aux Nouvelles Voix d'ici de la Maison de la Poésie Jean Joubert en 2021. Lorsque vous vous êtes présenté à moi, vous m'avez parlé de poésie sonore. Pouvez-vous développer ce que vous entendez par poésie sonore?
Oui. Alors, donc j'ai fait les Beaux-Arts et lorsque j'ai commencé à écrire, en fait, on a commencé à me parler de personnes comme Gerasim Luka, Bernard Hadik. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon approche des mots et du sens des mots, des sonorités, voilà, il y avait quelque chose qui était du jeu avec les sons, voilà, plus que des fois des ambiances. Voilà, et c'est vrai que ça correspond aussi, voilà, à un courant artistique dans les années 60, voilà, avec qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que dans la poésie contemporaine, il y a des gens qui se réclament de ça, de la poésie sonore, de la poésie action, avec des performances, avec des, voilà, des fois c'est visuel même, voilà.
Donc cette formation Beaux-Arts donc vous amenez vers la poésie sonore, mais d'autres vous avez également pratiqué dans d'autres champs d'application, je suppose.
Alors les Beaux-Arts, oui. Du coup, je suis allé aussi du côté de la photo, de la vidéo. Voilà,
du graphisme, vous me parliez aussi d'art-thérapie tout à l'heure.
Oui, aujourd'hui je suis actuellement en formation en art-thérapie. Voilà.
Alors, le titre du recueil, Reprends ton souffle. Effectivement, la lecture commence à un rythme effréné avec top chrono. Pouvez-vous nous parler déjà de ce titre, Reprends ton souffle?
Oui. Alors, beaucoup de textes, en fait, ils viennent de mon vécu. Hein, et puis, voilà, il y a des fois, on se fait des réflexions, on se dit... il y a des pensées qui nous traversent et qui... des fois, que j'ai envie d'aller explorer, ou ça induit chez moi des mots qui me viennent et avec lesquels j'ai envie de jouer. Voilà, donc, top chrono, il fait partie de ce rythme effréné, des fois, dans lequel on peut être.
Top chrono.
Top chrono. On n'a pas le temps, on est pressé par le temps. On est sous pression, on s'impressionne de faire autant en si peu de temps. On accélère, on décélère, attend. On n'a pas le temps, on est pressé, on n'a pas le temps de s'écouter. On passe, on repasse, on est toujours aussi pressé. On ne cesse, on s'empresse, on a toujours à s'occuper. On n'a pas le temps, on est pressé, on n'a pas le temps de s'écouter. Le temps presse, le temps est concentré, le temps est mesuré, le temps est chronométré. On presse, on s'empresse, on se presse, on presse le temps. On presse le temps pour faire autant en moins de temps. On concentre, on se concentre, on se concentre pour faire autant, autant en moins de temps. Le temps presse, on mesure, on compte, on mesure le temps qui passe, le temps qui presse. On chronomètre, on file, on s'enfile, on se défile, on se faufile. Au fil des jours, on tire les fils pour gagner du temps. Heureusement, de temps en temps, on prend le temps d'écouter les gens, et réciproquement.
Dans le poème « Parler », le temps court encore. Le temps semble au cœur de l'inspiration de nombreux textes. D'autres fois, il se fait tendresse. ce temps qui court, on le retrouve dans « Il y a un temps ».
Oui.
C'est aussi la tendresse, hein, je crois, dans ce poème que l'on ressent.
Oui, il y a un temps. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour rien. Il y a un temps pour courir et un temps pour se poser. Il y a un temps pour lire et un temps pour écrire. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour rencontrer et un temps pour se rencontrer. Il y a un temps pour flâner et un temps pour errer. Il y a un temps pour se divertir et un temps pour s'accomplir. Il y a un temps pour avancer, un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour regarder, un temps pour contempler. Il y a un temps pour être qui nous sommes. Il y a un temps pour ajouter et un temps pour soustraire. Il y a un temps pour honorer et un temps pour se consacrer. Il y a un temps pour s'honorer et un temps pour laisser couler. Il y a un temps pour marquer une pause et un temps pour redémarrer. Il y a un temps pour s'effacer et un temps pour s'afficher. Il y a un temps pour rechercher et un temps pour trouver. Il y a un temps pour s'obstiner et un temps pour laisser faire. Il y a un temps pour faire ce que nous avons à faire. Il y a un temps pour les priorités et un temps pour le reste. Il y a un temps pour le vent et un temps pour la pluie. Il y a un temps pour les champignons et un temps pour les escargots. Il y a un temps pour parler et un temps pour goûter les silences.
Au fil des pages, on voit surgir de sympathiques personnages. Il y a des vieux qui ont encore un appétit de vivre, une énergie considérable. Et là, une tante.
En tête. J'ai une tante, elle est têtue. Elle s'entête à faire la tête à tout bout de champ. J'ai une tante, elle est constante, toujours partante. Elle est contente d'être conséquente. J'ai une tante, elle est simplette, elle est casse-tête. Elle m'embête, elle m'entête, elle me prend la tête. J'ai une tante, elle est lassante, elle est blasante, elle est trop saoulante. Il n'y a pas de détente avec ma tante, tant elle guette la petite boulette. Elle est prête à faire la tête à tout instant. Elle est surprenante, vite étouffante, une épouvante. Contre toute attente, contre toute entente, je m'apprête à lui tenir tête, à lui faire sa fête. Tant elle se vante d'être entraînante, pour qu'elle me traite tel un traître et qu'elle s'entête à rester muette. Ce serait chouette.
Les pages du recueil s'agrémentent de belles photographies en noir et blanc. C'est votre choix, le noir et blanc.
Oui, en l'occurrence, voilà, je voulais oui, rester dans le noir du texte et des images sur ces tons-là.
Un texte autour des non-dits. J'ai ouï dire des non-dits.
Oui, alors c'est vrai que avant les mots, il y a eu les silences. Et dans les silences, il y a des non-dits. J'ai ouï dire des non-dits. J'ai ouï dire des non-dits. Oui, oui, je vous le dis, ne soyez pas surpris. C'était en huis clos, pas en un enclos. Les personnes ont dit des non-dits qui sont devenus des oui-dits. J'ai ouï dire des non-dits, j'ai ouï dire des oui-dits. J'ai ouï dire en huis clos des non-dits bien enclos. Les non-dits, bien enclos dans nos cerveaux, sont tus. On ne les dit, on ne veut les dire, on s'interdit de les dire. Et voilà que malgré tous les on-dits que l'on dit sur les non-dits, cette séance en huis clos révéla des non-dits bien précis. J'ai ouï dire des non-dits. Oui, ne soyez pas surpris. C'était un mardi ou bien un jeudi. En tout cas, je fus très surpris. Je me suis dit, ces personnes sont bien hardies. Et lorsque vint mon tour, après 9 dits, je me suis surpris à dire les noms des enfouis. Personne ne fut surpris.
Thank you.
Donc nous sommes avec Serge Colomba. Ces poésies extraites de Reprends ton souffle. Dans votre écriture, Serge Colomba, parfois elle prend des rythmes échevelés et on se retrouve dans des scénettes à la Raymond Devos. Là, nous allons écouter un air de mer. Vous appréciez particulièrement Raymond Devos, j'imagine, qui vous a inspiré quand même quelques...
Oui, dans sa façon de décrire des situations et de jouer avec les mots. Voilà, c'est une belle combinaison. Il y a un très ludique, en fait. Voilà. Un air de mer. Je ne le voudrais pas. Je ne voudrais pas dès ce soir. Je ne voudrais pas vous. Je ne voudrais pas vous dès ce soir. Enfin, je ne voudrais pas vous décevoir dès. Disons que je voudrais bien vous recevoir. Seulement, je crains de vous décevoir. Oui, je n'ai pas l'habitude de recevoir. Enfin, j'espère ne pas vous décevoir dès ce soir et que l'on pourra se revoir, se recevoir pour se revoir et se remémorer quelques soirs. Le premier soir est toujours un peu noir. On va recevoir, s'asseoir, boire, boire, boire. On boit toujours beaucoup le premier soir. Enfin, ce soir est un grand soir. C'est pour cela que je ne voudrais pas dès ce soir savoir que je ne vais plus vous revoir. Surtout qu'il y a toujours des choses que l'on peut entrevoir, apercevoir, percevoir le premier soir, et que l'on espère revoir, prolonger les autres soirées. Et déjà, de parler, je me sens moins stressé. Je suis souvent décontenancé lors de ces grandes veillées, mais vous voyez, le fait d'évoquer ce stress mal géré, avec vous, me libère un grand air, un air de mer. Je me sens moins amer.
Dans « Silence, on parle » ou par le nombre 2, j'ai comme une impression de me trouver dans un univers d'inventaire à la Prévert. D'ailleurs, vous avez écrit un texte monumentalement qui fait référence à un poème de Prévert. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. C'est le titre, il me semble. Alors, vous êtes inspiré aussi par Jacques Prévert. Ces univers critiques aussi, hein, Jacques Prévert. Oui. Il est incisif.
Et puis, je trouve que lui aussi, il avait une façon de jouer avec des situations, avec la vie. En fait, voilà, il y a quelque chose de très vivant dans Jacques Prévert. Oui. D'une anecdote d'un repas sur un coin de table, en fait, il va en faire un poème. Quoi. Oui, oui.
Voilà. Et très accessible à la compréhension. Oui. Enfin, l'univers, c'est clair. Ouais. Alors, nous allons écouter « Tu parles qu'on en parle ».
Tu parles qu'on en parle. Tu parles qu'on en parle. On parle, on parle, on parle plus que de ça. Il n'y a plus que ça dont on parle. On n'a plus que ça à l'esprit. C'est obsédant, c'est obstinant, c'est obstruant. Plus la force de parler d'autre chose, plus le temps. Temps, c'est présent tout le temps. Tourner, retourner dans tous les sens. Faudra bien un dénouement. On parle, on n'a pas fini d'en parler. Ça nous enchaîne, ça nous attache. Ça nous enlace et ça nous lasse. C'est fatigant. C'est harassant, c'est assourdissant, c'est abasourdissant. D'autant que péniblement, on parle peu naturellement. Mais tu parles qu'on en parle. On est obligé d'en parler. On ne peut l'effacer. On ne peut le contourner. Il fourmille sous nos pieds. Inévitablement, inexorablement. Et parler nous défend, repoussant notre étouffement, en attendant si nerveusement le jugement.
Dans nombre de vos poèmes, le verbe est au premier plan, Serge Colomba. En particulier dans ce poème, Je ne sais comment faire.
Je ne sais comment faire. C'est-à-dire que je ne sais pas toujours comment. C'est-à-dire que je ne parviens pas toujours à m'exprimer, m'exploiter, m'exposer, m'extérioriser. M'explorer, m'expatrier, m'exploser, m'exalter, m'expurger, m'exaucer, m'excentrer, m'exister, m'expulser, m'exhaler, m'exhorter, m'exorciser, m'exécuter, m'exempter, m'exhiber, m'exulter, m'extirper, m'extorquer, m'extraire de mon être.
La Seine a de la chance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source tout doucement, sans bruit. Et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit, elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre et s'en va vers la mer, en passant comme un rêve, au milieu des mystères, des misères de Paris.
L'impression dominante quand on lit vos textes, c'est que vous jouez en permanence avec des mots, les mots triturés à l'extrême, un jeu de mots. Et vous me disiez, grâce aux mots, on pénètre dans les arcanes du subconscient, de l'intime.
Je me rends compte qu'on met des phrases qui nous trottent dans la tête, là, et puis en fait, on se rend compte, ah ben oui, tiens, c'est pas anodin par rapport à tes situations, là, voilà, que ça résonne. Ouais, des fois des tas de chansons qui nous trottent, et puis quand on réfléchit aux paroles, tiens, ah bah oui, tiens, en effet, ça parle de ça, ça parle de ça, et ça résonne. Voilà, c'est vrai que en ce moment, je suis en formation en art-thérapie, et voilà, je m'intéresse aussi à Jacques Lacan et comment il jouait aussi avec le son des mots, et voilà, il composait aussi. Avec les mots, quand il parle du par-l'être, voilà, être parlant, en fait, voilà, qu'est-ce que ça inclut. Et il y a aussi voilà, tout le langage des oiseaux aussi, comment, voilà, par exemple, un prénom, comment on peut l'entendre, en fait, Serge, voilà, comment on l'écrit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, mais bon.
Et là, nous allons écouter Au fil des jours.
Au fil des jours. Au fil des jours. Au fil des mois. À penser à toi. Au fil des mois. À chercher en moi. Au fil des toits. Que je découvre au fur et à mesure. Au fil des mois. Que je me découvre en toi. Au fil des mois. Que je cherche mon moi. Celui que je ne connais pas. Celui que je construis ici-bas. Au fil des toits que je couvre et découvre au fil des mois. Au fil des soies que nous tissons à demi-mot. Au fil du temps que nous partageons à tisser. Tisser nos lois, tisser nos voix, en murmurant à demi-voix. Au fil des nous, des nœuds et des dénouements. Au fil du temps peau et des absences. À chercher nos voix, nos joies dans tout ça. Au fil des toits que je découvre chaque jour. Au fil des mois que je découvre chaque jour, au fil des nous que nous cherchons ensemble, au fil des mois.
Et là, vous nous parlez de votre travail d'écriture. J'ai écrit.
J'ai écrit. J'ai écrit sans cesse. Sans cesser d'écrire et d'unir les mots et les forces et les mots pour en faire des manteaux, pour en faire des armures, pour en contrer les sceaux. Pour rencontrer le beau, pour faire jaillir l'éclat, l'éclatement des sens, l'essence de soi, la soi tout en dedans. Juste là, à l'intérieur, son sens qui prend naissance, nos sens qui prennent vie, au détour des envies dénudées, des nudités révélées. Révéler tous les possibles, expier les impossibles, souffler de liberté et vivre, vivre sans cesse, avec des mots pour tout manteau.
Je pense que vous avez remarqué que Serge Colomba utilise régulièrement l'anaphore, c'est-à-dire un genre de répétition pour ancrer l'idée. Nous allons écouter Dans la mesure.
Dans la mesure. Dans la mesure où je n'ai rien à dire, je revendique le droit de me taire. Dans la mesure où les mots sont justes, je demande le droit de parler. Dans la mesure où j'ai besoin de comprendre, je demande le droit de questionner. Dans la mesure où je me sens accueilli, je demande à vous faire de la place. Dans la mesure où vous m'accueillez, je demande à vous accueillir entier. Dans la mesure où je suis fatigué, je demande le droit de me retirer. Dans la mesure où je me sens à ma place, je vous demande de me laisser savourer. Dans la mesure où je vous sens à votre place, je vous demande de l'apprécier. Dans la mesure où chacun fait un chemin, je nous demande de nous ouvrir. Dans la mesure où nous nous connaissons, je nous demande de nous apprécier. Pour nos forces et nos faiblesses, pour nos erreurs et nos élans, pour ce qui est bon en nous et ce qui demande à l'être, pour ce chemin sur lequel nous dessinons ensemble.
Et on reste un peu dans la même thématique, vos poèmes d'amour effleurent avec tendresse la pudeur du sentiment. C'est très agréable à écouter, très doux. Très doux également.
Mais j'essaye en fait dans les mots, en fait, dans l'écriture, de faire naître ou de révéler de l'amour. Et voilà. Celui-ci est particulièrement. Je suis rempli d'amour. J'ai bien senti le vide. J'ai bien senti le sac et le ressac. J'ai bien senti à l'intérieur les vagues d'amour au fil des saisons, les vagues d'amour au fil des rencontres. J'ai bien senti tout cela. Il reste bien quelques grains de sable, mais je sens combien l'amour est là, à l'intérieur. Telle la marée, il monte et il descend. Parfois il me submerge, parfois il me manque. Parfois il me submerge jusqu'à couler sur mes joues. Parfois il est beau et nourrissant. Parfois il cherche comment s'exprimer. Il n'est jamais encombrant. Au travers des rencontres, il peut être bafoué. Au travers des rencontres, il peut être embelli. Mais lorsque deux êtres remplis d'amour se rencontrent, l'amour grandit encore, grandit sans cesse, parce que l'amour n'a pas de limite. Il a besoin de s'exprimer, parfois d'exploser, comme pour mieux se révéler, et grandir encore. Il nous transforme, nous nourrit, nous fait grandir. Il est partout, il est là. Il est ce qui nous rend vivants. Il est l'expression de la vie à travers nous. Il est ce par quoi tout a commencé. Il est l'origine, il est la goutte. Il est la vague, il est la mer. Il est l'humanité tout entière.
Donc Serge Colomba, les lectures que nous avons écoutées sont extraites de « Reprends ton souffle ». Paru en 2022. Comment est-ce qu'on peut se procurer le recueil, s'il vous plaît? Serge Colomba, dites-nous.
Je pense qu'il y aura mes coordonnées qui seront sur le site. Il y aura donc, il sera disponible à la librairie Soramp. Oui. Voilà, je vais le mettre en dépôt.
Et auprès de vous, est-ce que c'est possible?
Bien sûr.
Alors, votre adresse mail, si vous voulez bien.
Donc, c'est serge.colomba, COLOMBAT, @free.fr.
Est-ce que vous avez des lectures programmées devant des publics qui se sont passés ou à venir, mais peut-être certaines expositions, vous me disiez par contre, hein, pour vos photographies?
Alors, je lis mes textes, en fait, dès que j'ai l'occasion, pour des scènes ouvertes.
Oui.
Voilà, quand l'occasion se présente. Pour l'instant, il n'y a pas de fixé, mais il y a des scènes ouvertes sur Montpellier où, des fois, je peux me rendre.
Où est-ce que vous allez, si ce n'est pas indiscret?
À la librairie Scrupule.
Scrupule, voilà, c'est ce à quoi je pensais.
Ouais. Okay. Oui, il y a la Postprof aussi.
Oui. On va vous y retrouver, voilà. Ça, c'est un bon rendez-vous. Oui. donc, après, vous faites des expositions de photos, vous disiez également tout à l'heure, avec une association Artel, c'est ça?
Oui. Donc, de la même façon que je compose avec les mots, en fait, je compose avec mes images, en fait,
oui.
Parce que au fur et à mesure que j'ai créé une banque d'images, j'ai voulu jouer avec les images et composer, faire des résonances. Donc je compose des livres uniquement d'images, pleines pages, d'où j'en extrais des fois des combinaisons, des compositions que j'expose sur des panneaux d'Ibon. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'exposition prévue, mais j'ai pu en faire dans le passé, par le biais de l'association Artel, en effet, qui est sur Montpellier.
Il y en aura dans l'avenir, forcément. Hein. Alors, les poèmes de Serge Colomba sont rythmés autour du temps qui passe et des silences de la vie. Le silence est très important dans ses poèmes. Il dit, dans la mesure où je n'ai rien à dire... Mais, chers auditeurs, vous avez bien ressenti comme moi que ce n'est pas si sûr que Serge Colomba n'ait rien à dire. Et je vous donne rendez-vous pour mes prochaines émissions Jardin d'Isis, chaque jeudi, 13h15, 19h15.
Merci.
Merci Serge Colombin. Merci Agnès. Merci Stéphane.
Parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de rien. De rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien, trois multiplié par trois égale neuf, ça fait rien de neuf. Bon, allez. Parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Parlons de la situation, tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons ? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.